Chers frères et sœurs, bonjour. Le Seigneur nous conduise ensemble à la lecture de sa parole. Je vous propose ce matin de partir d'une interdiction. Il y a des exhortations, il y a des obligations, mais ce matin je vous propose une interdiction. C'est, selon notre manière de le compter, de les compter, c'est le deuxième des 10 commandements, ou la deuxième des 10 paroles du décalogue, donc, qui sont rapportées dans le chapitre 20 du livre de l'Exode. Je vous ferai la lecture, tout simplement, du verset 4 et du tout début du verset 5 du chapitre 20, c'est donc le deuxième commandement. « Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. » Fin de la lecture. Nous tenons ce commandement comme le deuxième, après celui proscrivant l'adoration d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Ce qui était interdit dans le deuxième commandement, c'est de représenter Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, par une de ses créatures, par une statue d'un animal. Le peuple d'Israël, lorsque nous sommes dans le livre de l'Exode, donc ça veut dire qu'il sortait du pays d'Égypte. Or, les divinités égyptiennes étaient représentées, beaucoup en tout cas, par des animaux. Alors j'ai cherché un petit peu, je vous donne deux exemples, Anubis et sa tête de chacal, Horus et sa tête de faucon, par exemple. Cherchez sur Internet si vous voulez, je me suis dit c'est pas la peine, c'est quand même pas mon propos de vous montrer les photos de dieux égyptiens, mais on trouve ça sur Internet, c'est ce que j'ai fait moi-même, hein, j'avoue. Alors, le peuple d'Israël avait sans doute aperçu ces choses-là, même s'ils étaient confinés dans le delta du Nil. Et le peuple d'Israël pouvait, je dirais à bon droit presque, être tenté de vouloir faire de même, alors qu'il suivait leur Dieu pour la sortie d'Égypte. N'allait-il pas emporter de l'Égypte cette pratique de représenter Dieu, son Dieu, par une sculpture, par un bas-relief ? Eh bien là, le texte que nous avons, ce texte qui fonde la religion juive, nous l'interdit, leur interdit. Il ne fallait pas représenter le Dieu d'Israël par un animal ou une statue quelconque. Leur Dieu n'était pas un Dieu égyptien ou autre. Leur Dieu était Dieu tout court, était le Dieu unique. Non seulement il ne fallait pas adorer d'autres dieux, premier commandement, mais il ne fallait pas non plus adorer le Dieu unique comme s'il était un simple Dieu parmi les autres dieux, à la manière égyptienne. Malheureusement, le peuple va le faire quand même, à quelques occasions. Ne leur jetons pas la pierre. C'est parfois les défauts des autres, dont nous les accusons si facilement, qui sont des miroirs pour nous. Par exemple, l'épisode que l'on appelle du veau d'or, Exode chapitre 32. Alors, Exode 20, Moïse est sur la montagne, il reçoit toutes ses prescriptions, le décalogue et bien d'autres choses. Et pendant ce temps-là, le peuple attend. Et finalement, Aaron, le frère de Moïse, qui était aussi à la tête du peuple, invente une statue d'un animal, d'un veau, pour que les Israélites et quelque chose à voir. Et c'est le fameux épisode du veau d'or qui a fait que Moïse s'est fâché tout rouge quand il est descendu parce qu'il venait d'écrire, ou Dieu venait d'écrire, ou de lui dicter « Tu n'auras pas d'image taillée, de sculpture ». Il descend et qu'est-ce qu'il voit ? Ce qu'il ne fallait pas. « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous », demandaient les Israélites. Et puis à Aaron de dire ensuite, une fois que cette statue est fondue, en or donc, Et Aaron dit, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il s'agissait bien de l'adoration de Dieu, mais de la mauvaise manière. Et puis, même beaucoup plus tard, après, vous savez, il y a eu la royauté, après de longues périodes, un petit peu d'anarchie, il y a eu finalement la royauté avec Saül, puis David, puis Salomon, et après, la royauté a éclaté en deux parties. Et le premier roi de la partie nord du royaume, où ne se trouvait pas Jérusalem, a trouvé inquiétant que le centre du culte étant au temple de Jérusalem, dans la partie sud, dans laquelle lui n'était plus, eh bien que ça provoque une attirance pour ses sujets, et qu'ils aillent dans la partie ennemie, la partie sud, adorer Dieu, au lieu de rester dans la partie nord dont il était le roi. Et du coup, qu'a-t-il fait ? La même chose que Aaron dans le désert. Il a fait à deux endroits des statues en or, et il a dit « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». La même petite phrase. D'autres occasions encore, mais arrêtons-nous là. Dieu est différent de toute sa création et de toutes ses créatures. L'adorer de cette manière ne convient pas, est impropre. Toute la Bible nous le fait comprendre. Et si Dieu veut donner une image de lui-même, il est assez grand pour le faire lui-même. Et il n'attend pas que les hommes le fassent à leur manière. Et quelle image Dieu a-t-il donné de lui-même ? Des siècles après, Jésus est l'image du Dieu invisible, nous dit l'apôtre Paul. Nous en avons lu un texte tout à l'heure. Et j'ai cité pour ma part Colossiens 1, 15, qui décrit Jésus comme l'image du Dieu invisible. Il ne s'agit pas d'une statue, d'un animal, mais d'un homme. L'image, dans ce contexte d'ailleurs, le mot « image », n'est pas un symbole, un reflet, une œuvre d'art. C'est une émanation, c'est une manifestation. Comme quand on dit en français, je suis triste à l'image d'un tel qui est triste aussi. C'est-à-dire qu'on s'associe à lui, on est partie prenante. Dans un ouvrage ou deux que j'ai lu, il est question de l'émanation de Dieu. C'est plus qu'une simple représentation. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Les Israélites réclamaient dans le désert un Dieu qui marche devant eux. Le peuple de Dieu a aujourd'hui les yeux fixés sur Jésus, je cite la lettre aux Hébreux, et marche à sa suite. Nous avons Jésus qui marche devant nous. Nous ne suivons pas en procession une statue de bœuf ou d'oiseau, mais nous suivons le Christ, notre modèle, notre enseignement, notre enseignant, celui qui nous fait grâce. Nous le suivons par la foi, nous le suivons en le prenant pour modèle, en cherchant à l'imiter donc, en écoutant ce qu'il dit, en essayant le mieux possible de le mettre en œuvre dans nos propres vies, dans notre vie de communauté. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce deuxième commandement et de la suite que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire, oui, bel et bien, il a donné une image de lui, et c'est le Christ. Que nous disent premièrement les interdits du décalogue ? Nous ne devons pas faire d'image de Dieu. Ils nous disent que Dieu est unique. Rappelons-nous aujourd'hui que notre Dieu, nous lui devons notre origine, l'origine de l'humanité. Je discutais avec quelqu'un cette semaine en entretien de la manière de lire la Genèse. Compliqué. Mais au moins la chose qu'on peut retenir, c'est que nous tenons notre origine de Dieu. Quelle que soit la manière dont les choses se sont passées, nous tenons notre origine du grand Dieu. Et nous avons aussi notre avenir entre ses mains. Alors Dieu n'est pas comme une divinité ou une notion, c'est le créateur du ciel et de la terre, c'est le Dieu souverain qui n'est dépassé en sagesse en amour, en puissance, en perfection, par rien d'autre et personne d'autre. Alors oui, ce Dieu, Dieu tout court, ne peut être adoré comme les autres entités. Oui, la foi en Dieu est unique de ce point de vue-là, parce que Dieu est le seul Dieu. Et cela nous procure de la sécurité. Quand je vois parfois, en écoutant les nouvelles, les difficultés dans lesquelles notre société, notre monde est plongé, il y a parfois un vrai stress, une vraie inquiétude qui monte. Je dis, mais on va où? Qu'est-ce qu'on va faire? Le réchauffement climatique, les islamistes terroristes qui veulent maintenant faire dérailler nos trains. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Et l'angoisse me vient. Et à ce moment-là, je me dis, bon Jean-Marc, tu adores le Dieu unique, le Dieu souverain, tu es dans sa main. Vis cette sécurité, que cette sécurité te donne de la paix dans le cœur, dans l'estomac. Rassure-toi, Dieu veille. Cela nous inspire aussi le respect, la crainte devant ce Dieu unique dont nous n'arrivons pas à cerner la personne tant il est au-dessus de ce que nous pouvons comprendre, mais qui néanmoins se révèle à nous et attend de nous que nous soyons en relation avec lui. Crainte et respect, adoration, amour. Ravivons en nous la flamme de notre foi dans le Dieu unique. Le Dieu unique mérite notre adoration, notre cœur, notre amour. Le Décalogue nous enseigne aussi qu'il y a une manière spécifique de se présenter devant le Dieu unique. Même si les usages d'Israël correspondaient à l'époque à la culture du Moyen-Orient, dans bien des points, le judaïsme avait aussi précisément des particularités. Ils ne représentaient pas Dieu, alors que les autres nations autour, l'Égypte en premier, mais les autres aussi, représentaient leur Dieu. Nous aussi, chrétiens, sommes dans une époque très, très différente, certes, mais nous avons aussi une manière spécifique d'adorer le Dieu unique. Jésus nous choisit ce texte du dialogue de Jésus avec la femme de Samarie, la Samaritaine, comme on l'appelle, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 4, où, au cours du dialogue, Jésus finit par expliquer à cette femme les vrais adorateurs. Il parlait du lieu d'adoration, justement, un peu comme avec l'histoire de Jéroboam et du veau d'or. Et Jésus dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. L'expression est peut-être un peu hermétique pour nous, en esprit, en vérité. Je suis convaincu que ça veut dire, le mot en esprit veut dire au plus profond de mon être, de la manière la plus authentique qui soit, et le mot en vérité le dit aussi. On n'a pas de façade à faire devant ce Dieu unique qui transperce de son regard n'importe quoi. On n'a pas à faire semblant, on n'a pas à jouer les ceci ou les bons chrétiens. On n'a pas le choix. On est obligé, parce que c'est le Dieu unique, de nous approcher tels que nous sommes, sans hypocrisie, avec sincérité. On n'a pas le choix de faire, par exemple, de venir à l'église, de faire bonne figure, et puis hop là, on laisse le Dieu unique après, loin derrière nous. Il était question tout à l'heure d'offrandes. Alors peut-être qu'un jour on arrivera avec les poches, on mettra quelqu'un, mon voisin m'a glissé, on mettra le téléphone dedans, peut-être carrément, hein. Je sais pas, le trésorier sera content. Mais il suffit pas de faire un chèque comme ça à l'église pour être débarrassé, pour libérer sa conscience, et puis ensuite, on a adoré le Dieu unique. Non, c'est pas comme ça, c'est en esprit et en vérité, avec authenticité. Il ne suffit pas de mettre sa belle chemise et d'avoir l'air d'un bon chrétien pour adorer le Dieu unique en esprit et en vérité. Dieu attend de nous nos êtres, nos âmes, nos cœurs. C'est la seule manière qui vaille d'adorer
le Dieu unique. Voilà ce que nous enseigne le Décalogue. Que nous dit Christ, l'image du Dieu invisible ? Jésus a été l'image du Dieu invisible lorsqu'il était sur cette terre. Les gens le voyaient, et comme nous l'avons, cela a été lu tout à l'heure, et ils voyaient, et par lui voyaient le Père. Et Jésus, de cette manière, nous montre notre rôle de chrétien dans ce monde. Jésus fait connaître le Dieu invisible. Au passage, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 29, dit que nous sommes transformés à l'image de Jésus. C'est Paul qui l'explique. Donc Jésus est l'image du Père, nous sommes transformés à l'image de Jésus. Alors nous faisons, nous, connaître Jésus. Bien, nous faisons connaître Dieu lui-même aussi dans ce monde. Nous-mêmes sommes ces images de Dieu que les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin de voir, qu'ils cherchent de leur regard, qu'ils vont observer peut-être pour apercevoir le Dieu invisible par notre intermédiaire. Alors nous serons à la suite de Christ, image du Dieu invisible. Avons-nous conscience de ce rôle particulier qu'il nous faut jouer dans ce monde, de cette place particulière qu'il nous faut tenir ? Si oui, alors nous nous aimerons les uns les autres. Ainsi, je cite l'évangile de Jean, « tous sauront que vous êtes mes disciples. » C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. « Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous verront que vous êtes mes disciples. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, tous verront que nous sommes disciples du Christ, que nous sommes ces images que Dieu donne au monde. Alors nous agirons pour le bien dans ce monde. Et voyant cela, des gens glorifieront notre Père qui est dans les cieux, je cite, cette fois l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, d'ailleurs, c'est le début du sermon sur la montagne au chapitre 5, utilise l'image de la lumière. Alors l'image, la lumière, ça se ressemble. Et Jésus dit bien, vous êtes la lumière du monde. Ne vous cachez pas, vous êtes fait pour être vu, pour éclairer. Et il a dit ailleurs, je suis la lumière du monde. Alors on ne le voit plus bien, hein. C'était affiché sur notre mur, mais à cause des travaux, voilà, on voit encore l'ombre des lettres. Hein. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et à sa suite, nous sommes la lumière du monde. Avec lui, en brillant de sa lumière, nous sommes lumière du monde. Jésus est l'image du Dieu invisible. Et à sa suite, nous sommes des images du Dieu invisible. Quelle image du Dieu invisible as-tu donné cette semaine ? Quel visage as-tu donné à voir ? Quel regard as-tu donné à croiser pendant cette semaine ? Est-ce qu'en regardant un petit peu les différents comportements que nous avons eus pendant cette semaine, et je m'adresse là, cette remarque à moi en premier, est-ce que nous pouvons dire, ben oui, j'ai été image de Dieu cette semaine ? Ou est-ce qu'il y a des moments où franchement on a été image d'autre chose ? Soyons pudiques. Remettons-nous en question là-dessus. Dieu nous demande d'être ses ambassadeurs, ses témoins. C'est une lourde charge. Mais en même temps, c'est tellement beau. C'est une tellement belle vie d'avoir cette fonction que nous remplissons humblement. Hein. Il ne s'agit pas de nous prendre pour Dieu, mais de le faire voir dans nos vies. En tant qu'être humain, on pourrait dire d'ailleurs, si on était un petit peu joueur,
Mais Jean-Marc, de toute manière, nous sommes image de Dieu. Tous les hommes et les femmes sont image de Dieu, puisque dans la Genèse, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Bien joué. Mais lorsque Jésus est qualifié de l'image du Dieu invisible, c'est autre chose qui est dit, c'est quelque chose de bien plus profond et bien plus engageant. En tant que disciple du Christ, ai-je donné une meilleure image encore que celle que tout être humain peut donner de Dieu puisqu'il est créé à l'image de Dieu ? Une image plus lumineuse de la lumière de la grâce, une image plus nette de la lumière de la parole de Dieu, la Bible, une image plus représentative de la personne du Créateur. Quel visage donc ai-je offert au regard qui cherche Dieu ? Quelles expressions ? Quelles paroles ? Quelles oreilles aussi ? Les oreilles sont à côté du visage, mais servent beaucoup pour être image de Dieu, parce qu'il faut savoir écouter. Ne soyons pas tentés de faire comme les Israélites de l'Exode, qui voulaient faire comme tout le monde et avoir un Dieu qui marche devant eux, alors qu'une statue. Gardons notre spécificité chrétienne dans ce monde, parmi nos contemporains. C'est notre rôle, c'est notre place. Nous, image du Dieu invisible. Aiguisons notre sens des valeurs qui nous sont propres. Nous, image du Dieu invisible. Qu'avec nos frères et sœurs des autres communautés dans le monde, nous soyons tous ensemble cette image du Dieu invisible. Mais ces images tellement multiples, quand je croise vos regards ce matin et que je vois toute cette diversité parmi nous, et nous sommes tous et toutes images de Christ, image du Dieu invisible, chacun à sa manière, chacun selon sa personne. Il ne s'agit pas de rentrer dans un moule unique ou de nier nos personnalités différentes. Chacun à sa manière. J'arrêterai là mon propos. Soyons image de Dieu dans ce monde. Soyons les images du Dieu invisible dans ce monde. Je vous invite aussi, en conclusion, à profiter de la lecture d'un livre que j'ai parcouru, au moins pour ce commandement-là, « L'aujourd'hui de la loi », lecture actualisée des 10 commandements et du sermon sur la montagne par Antoine Nouis. Je vous invite à la prière.